Radio Kapi. Oh,
Kapi. À la présentation du journal, Pascal Massirica.
Les titres de l'actualité, lancement ce lundi à Kasomeno dans le Haut-Katanga, des travaux de la construction de la route qui ira jusqu'à Mwenda en Zambie. Une fois terminée, cette route va contribuer au développement des deux pays à travers les échanges commerciaux. Le docteur Denis Mukwege est candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain en RDC. Le prix Nobel de la paix affirme à Radio Kapi que sa candidature fait suite à la volonté exprimée par des habitants qui ont payé la caution. Notre invité, c'est le directeur général de l'ONG Accès à l'eau potable et au développement en RDC. Benjamin Liringa affirme que 250 points d'eau potable ont été aménagés dans 350 villages de l'Ituri et dans le Haut-Touélé. Objectif, améliorer les conditions de vie des habitants qui vivent dans la précarité. Madame, Messieurs, bonsoir. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo lance lundi à Kasomeno, dans la province du Haut-Katanga, les travaux de la construction de la route qui ira jusqu'à Mwenda en Zambie. Une fois terminée, cette route va contribuer au développement des deux pays à travers les échanges commerciaux. Pour en parler, retrouvons à Lubumbashi Jean-Gandou Kabongo.
Du côté congolais, la route qui part de Kasomeno jusqu'à Tchaloué est d'environ 5 km et un pont de 345 mètres sera jeté sur la rivière Luapula qui sépare la RDC à la Zambie. Et de Tchaloué, du côté zambien à Mwenda dans la province de Luapula, la route est longue de plus d'une centaine de kilomètres et de là, elle sera connectée à celle qui mène vers la frontière de la Zambie avec la Tanzanie. Les travaux sont préfinancés par le groupe européen de développement GED à hauteur de plus de 730 millions de dollars américains. Une fois terminée, cette route permettra de décongestionner la frontière de Kasumbalesa. Au lieu que les marchandises, notamment les minerais, passent par le port de Durban en Afrique du Sud, c'est plutôt le port de Dar es Salaam qui sera privilégié, car étant le plus proche, ce qui sera un gain en temps et en argent pour les opérateurs économiques et autres. Pour les ressortissants de Kasenga, cette route favorisera aussi le développement des activités commerciales qui pourront booster aussi le développement local par la construction de plusieurs infrastructures, dont les hôtels dans les chefs du territoire de Kasenga. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
On en vient maintenant à l'actualité politique. Le docteur Denis Mukwege s'est dit prêt à compétir pour la présidentielle de décembre prochain en RDC. Annonce faite à la presse lundi à Kinshasa. Le prix Nobel de la paix affirme que sa candidature fait suite à la volonté exprimée par des habitants qui ont payé la caution. Il note qu'aller voter ne suffit pas. Encore faut-il, selon lui, se rassurer que les résultats publiés par la CENI traduisent l'expression du peuple. Il a également dressé c'est un bilan sombre de la situation qui prévaut actuellement dans le pays sur les plans social, économique et sécuritaire. Il dénonce en même temps les arrestations arbitraires des opposants politiques, des journalistes, la corruption et l'enrichissement illicite, ainsi que des multiples violations des droits de l'homme. Ces propos ont été recueillis par Grassa Mouzati.
C'est depuis une dizaine d'années qu'au travers de nombreuses associations et personnalités représentatives de notre très riche diversité, les Congolaises et les Congolais m'exhortent à m'engager davantage à leur côté en me présentant comme candidat à la présidence de la République. Je me suis longtemps retenu de répondre à ces appels car, bien qu'on fait de très dures réalités qu'enduire notre peuple, il n'est pas dans mon caractère de m'engager dans une responsabilité aussi grave et noble de manière hasardeuse. L'insécurité, la faim, la maladie, le chômage, l'humiliation sont le lot quotidien de notre peuple. Bien que doté d'un potentiel incommensurable de développement, notre pays est devenu la honte du continent et la risée du monde. Nous sommes devant une crise existentielle sans précédent, caractérisée par des violations répétées des textes réglementaires, y compris la loi fondamentale, menaçant même le vivre ensemble.
Au Sud Kivu, pendant 7 ans, 40 femmes candidates ont été formées en l'espace de 2 jours sur la conduite de la campagne électorale et l'élaboration du projet de société. La matinée d'expression organisée par l'ONG GAD, genre actif pour le développement, s'est achevée samedi à Uvira. Une correspondance de Fiston Goma Mayabala.
Les femmes candidates ont saisi l'opportunité de lier la théorie à la pratique sur comment parler en public avec un message porteur et mobiliser son électorat. Parmi ces femmes, on pouvait observer des femmes politiques de l'Union sacrée de l'opposition, des femmes issues de la société civile et des femmes issues de la fonction publique.
La femme doit jouer son rôle en tant que pièce maîtresse dans la restauration de la paix à l'Est. C'est pourquoi on ne doit pas prendre la politique comme étant une opportunité, mais comme une carrière pour l'émergence d'un nouveau Congo et pour la stabilité des institutions.
Quelque chose qui n'est pas retrouvé, par exemple, dans la société civile, que je vais retrouver dans les partis politiques. Par exemple, les militantisme. On doit être là, on doit défendre les partis, les idéologies du parti, les projets de société. Ça, c'est nouveau pour moi, mais je vais m'adapter pour amener cela de l'avant.
Les participantes ont recommandé que cette activité soit organisée dans les milieux de provenance des femmes candidates, dont Uvira, Fizi, Tombwe et plein de la Ruzizi. L'objectif serait de redorer l'image de la femme et réduire les violences et menaces faites à leur égard en cette période électorale. Protection internationale et 11-11-11 sont deux organisations internationales qui ont appuyé ces projets exécutés simultanément au nord et au sud Kivu. D'Uvira Fistongo Momayaba, la Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir. Des coutumes, le mois de septembre marque le début d'une longue saison de pluie en RDC. Ici à Kinshasa, les habitants des quartiers à problème sont-ils disposés à affronter la saison pluvieuse qui cause souvent d'importants dégâts matériels? Tentative de réponse dans ce récit de Merveille Assani sur la situation qui prévaut actuellement dans la commune de Limété.
Nous sommes dans la commune de Limété, précisément à la première rue, quartier résidentiel. Les habitants de ces environs craignent les pires vu que les travaux de curage des rivières de cette commune promis par les autorités ne sont toujours pas réalisés jusqu'ici. Les immondices s'entassent ça et là dans les caniveaux. La rivière Kalamu qui charrie les immondices au passage des eaux est bouchée. Jano Tununa, gérant de briques vivant aux environs.
Je vais te dire la vérité. Nous ici, c'est compliqué. Attendons juste quand il va pleuvoir. C'est pitoyable. Quand s'il pleut, nous restons condamnés à l'étage. En tout cas, nous attendons que les autorités viennent nous secourir.
Sophie Moreira, agent à la division urbaine de l'environnement, exprime son inquiétude.
L'inondation est forte ici, l'eau entre jusque dans nos bureaux, les dossiers des gens s'abîment. Est-ce que le bureau de l'État peut vraiment ressembler à ça? Quand il pleut, c'est vraiment sale ici et lorsque la pluie persiste, nous sommes dans l'incapacité de travailler et nous restons à la maison.
L'inquiétude est aussi exprimée par la bourgmestre de la commune de Limété, Nathalie Alambafeza. Elle affirme que le moyen et ressources nécessaires manquent pour déboucher les caniveaux et autres canaux.
Et puis, la Ligue des locataires plaide actuellement en faveur de 1350 locataires qui sont menacés de déguerpissement dans la commune de Maloukou sur les sites qui appartenaient jadis aux sociétés Siderna et Socidère. Sommet de déguerpir par le ministère du portefeuille. Ces locataires s'en remettent finalement au ministère de l'Urbanisme et Habitat qui les maintient sur les sites depuis 5 ans. La LILOC appelle à la régularisation de la situation. Jeff Ngoy.
Nous ne sommes pas ici pour défendre quelqu'un, mais plutôt pour défendre les biens privés de l'État. Ces maisons qui ont été construites sur fonds propres de feu le président Mobutu, lorsque le président Tshisekedi parle d'État de droit, nous nous sommes mis debout pour défendre les biens de l'État. Ces locataires anciens agents des sociétés Siderna devenus plus tard la Siderijus de Maloukou tombés en faillite occupent 1350 maisons de l'État depuis les années 80. Ils veulent régulariser leur situation vis-à-vis de l'État pendant que Socidère les somme de quitter le site. Le président de la Ligue des locataires, Jean-Jacques Benamey.
Ici, là, il y a les locataires du ministère de l'Urbanisme Habitat parce qu'ils ont le contrat de l'Urbanisme Habitat. Il y a aussi les locataires du ministère de Portefeuille. Ce sont des bagarres. J'aurais pu souhaiter que les deux ministres qui siègent ensemble Conseil des ministres pose le problème au cours du Conseil des ministres. Et le chef de l'État, qui est le bailleur d'ailleurs de la cité, peut orienter la chose.
Un arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa Matete soutient la démarche du ministère du portefeuille qui veut récupérer les maisons pour la Socidère. Celle-ci brandit aux occupants une mise en demeure datée du 8 septembre, alors que le ministère de l'Urbanisme et Habitat invite les mêmes occupants à la régularisation de leur situation, arguant qu'il s'agit des maisons relevant du domaine privé de l'État.
Merci Jeff Ngoy pour ces précisions. Allons maintenant à Bounia où le transport public se fait uniquement à moto et pour se déplacer d'un coin à un autre de la ville, chef-lieu de la province de l'Ituri, les nombreux habitants de la ville de Bounia expriment le souhait d'avoir d'autres moyens de transport. C'est ce que nous explique à Bounia Marie-Nema Maguira.
Chaque jour, jusqu'à tard la nuit, les mototaxis arpentent les rues de Bounia pour assurer le transport des habitants. C'est les seuls moyens dont ils disposent pour effectuer leurs déplacements dans divers coins de la ville qui compte près d'un million d'habitants. Certains demandent d'autres moyens de transport, notamment des voitures. Témoignage.
C'est très important. Les opérateurs devraient investir aussi dans l'achat des bus de transport.
Au cas où, par exemple, il y a la pluie et que je suis à la maison, je n'arrive pas bien à me déplacer par la moto.
L'absence de ces moyens de transport, ça nous cause énormément de problèmes. Bounia, avec 500 francs, vous ne savez pas venir à l'université.
Le président de l'Association des transporteurs du Congo, Annie Touri, donne ici les raisons pour lesquelles les opérateurs économiques n'investissent pas dans l'achat et la mise en circulation des véhicules de transport public. Serge Mbidjou.
C'est l'insécurité. Alors, c'est pour cela que tout le monde opère d'investir parce que chez nous ici, vous voyez, il y a les mains armées. Alors, tout ça, comme on a commencé à asphalter notre ville, je pense que maintenant, on va se à mettre les taxis-voitures pour les transports communs.
Selon la plateforme des associations des mototaxis de Bounia, le chef-lieu de l'Ituri compte à ce jour environ 2800 taxis-motos. Bounia, Marie-Nema Maguira, Radio Okapi.
En plus bref, au Nord Kivu, un calme précaire règne ce lundi dans la région de Kirolirwe, entre la ville de Goma et la cité de Kichanga, groupement de Bachalika Mbe dans le territoire de Masisi après des affrontements d'hier soir entre les rebelles du M23 et des miliciens d'autodéfense locale. Plusieurs sources affirment à Radio Okapi que les groupes armés locaux appelés Wazalendo ont réussi hier à déloger le M23 à Kirolirwe. L'Association africaine de droits de l'homme, AZADO, exige la libération du journaliste Stani Boujakera, directeur de publication adjoint du site d'information actualité.cd et correspondant des Jeunes Afriques. Cette requête a été formulée lors d'une conférence de presse tenue ce lundi à Kinshasa par le coordonnateur de l'AZADO, maître Jean-Claude Katende, dit se baser notamment sur le fait que la personne ou l'institution qui se plaint n'a pas usé de son droit de réponse. Mais aussi, dit-il, l'article de Jeunes Afriques incriminé n'est pas signé et donc il ne peut être attribué à Stani Boujakera. On l'écoute dans ce propos recueilli par Martin Seboujangwe.
Nous avons trois constats que nous avons faits. Le premier, c'est que l'institution ou la personne qui s'est plainte n'a pas usé de son droit à la réponse comme cela est prescrit par la loi sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo. La personne lésée, dit la loi, doit pouvoir demander qu'on lui accorde un droit de réponse et si celui-ci lui est refusé, il peut donc s'adresser à la justice. Deuxièmement, nous avons constaté que la justice exige à M. Stani Boujakera de donner ses sources d'informations. Or, la même loi interdit aux journalistes de divulguer ces sources d'informations. Donc, c'est une demande qui n'est pas conforme à la loi sur la liberté de la presse. Enfin, nous avons aussi constaté que l'article en question qui a été publié dans le journal Jeune Afrique n'a pas été signé. Donc, il est difficile qu'on puisse attribuer la paternité de cet article à M. Stani Boujakera.
Pour rappel, Stani Boujakera est accusé par la justice congolaise d'infractions présumées de faux en écriture, falsification des sceaux de l'État, propagation de faux bruits et transmission de messages erronés et contraires à la loi autour du meurtre du député national Chérubin Okendesenga. Tir ce lundi matin autour de Liti Gombe, ici à Kinshasa, autour d'un vieux conflit qui a dégénéré entre des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique et technique et des enseignants de l'Institut technique industriel de la Gombe. Selon des sources locales, la tension couvait depuis samedi dernier. Des étudiants de l'ISPT accompagnés de jeunes délinquants munis d'armes blanches ont saccagé ce week-end l'immeuble des enseignants de l'ITI. Ce lundi matin, des étudiants sont revenus pour empêcher les élèves d'étudier. La police nationale est intervenue pour ramener le calme. Blaise Shindani Kambala.
Les parents des élèves de Liti Gombe qui ont accompagné leurs enfants à l'école ce matin ont été désagréablement surpris en trouvant sur place une cacophonie. De coups de feu ont même été tirés. Les parents véhiculés ont vite rebroussé chemin avec leur progéniture. Les autres ont dû se débrouiller en cherchant des abris. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Félicien Mangwala, chargé du social de Liti Gombe.
Samedi, aux environs de 14h30, nous avons vu un groupe de bandits descendre dans deux taxibus appelé communément 207. Et ce groupe de bandits a envahi l'immeuble résidentiel des enseignants, détruisant, pillant, volant, emportant biens et diplômes, éléments de valeur des enseignants.
Ce conflit n'a que trop duré, se plaint le colonel Hugo Mundelengolo, commandant du commissariat urbain de la police de la Gombe qui gère ces secteurs.
C'est un vieux conflit, comme je le disais. Ce matin, on nous a appris qu'il y avait des coups de feu et nous sommes intervenus. Le calme est revenu très rapidement. Pour l'instant, il y a des pourparlers entre les deux camps et je pense que à leur niveau, il n'y aura certainement pas de solution. Il est question que les autorités interviennent pour dire définitivement à qui doit appartenir ce bâtiment. Sinon, nous risquons d'avoir mort d'homme un jour et l'intervention viendra un peu tard.
Les parents d'élèves disent craindre pour la sécurité de leurs enfants. Eux aussi lancent un appel aux autorités pour mettre définitivement fin à ces conflits. Une réunion se tient en ce moment autour du ministre de l'EPST sur cette situation.
Actualité internationale.
À Madagascar, la police nationale a fait usage de gaz lacrymogène ce lundi après-midi contre les candidats à la présidentielle issus de l'opposition. 11 des 13 candidats de l'opposition avaient donné rendez-vous aujourd'hui à la population pour venir se rassembler place du 13 mai sur laquelle toutes les contestations politiques de la ville ont lieu. Mais la police nationale les en a empêchés. Le bilan fait état de plusieurs blessés et d'arrestations. Et puis le 27 ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne sont arrivés aujourd'hui à Kiev, car convoqués par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, pour une réunion historique. Objectif visé, tenter de démontrer que la solidarité des Européens est faite pour durer et que l'avenir de l'Ukraine réside plutôt en Europe. C'est la première fois que tous les États membres de l'Union européenne se réunissent en dehors des frontières de 27.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur général de l'ONG Accès à l'eau potable et au développement en RDC. Benjamin Liringa affirme que 250 points d'eau potable ont été aménagés dans 350 villages de l'Ituri et du Haut-Ouélé. Objectif, améliorer les conditions de vie des habitants qui vivent dans la précarité. Il est interrogé par Jean-Claude Lokidile.
Benjamin Liringa, bonjour.
Bonjour.
Quel bilan dressez-vous de vos activités 7 ans après?
Durant les 7 dernières années, nous avons réalisé de grandes activités. Nous sommes dans 3 secteurs différents. Il y a le secteur eau, il y a le secteur agricole, où nous travaillons avec le peuple autochtone pygmé à Mambasa, dans la chefferie de Babila Bakwanza, le village Bahaha, Babofi, Lumalisa, vous allez nous trouver là-bas avec des activités agricoles que nous appelons un projet Food for Work, la nourriture pour le travail. Donc on donne la nourriture aux pygmées et ils font le travail pour leurs propres champs. Et deuxièmement, nous avons aussi le volet WASH, qui est le volet eau, hygiène et assainissement, où nous donnons de l'eau à la communauté après avoir ressenti les besoins, bien sûr. Et pour ce qui est du deuxième volet, on a plus de 350 villages servis dans la province de l'Ituri. Nous sommes à Banegaido, à Ingbokolo, à Aru, Magi, Chomia. On a des points d'eau et le service de WASH, donc les formations en hygiène et assainissement, et aider les mamans comment avoir prendre soin de leur période menstruelle. Troisièmement, nous avons le volet environnement où nous accompagnons les communautés forestières dans le domaine que nous appelons cookstove ou les foyers améliorés afin de réduire la consommation de bois dans la forêt de l'Ituri.
Est-ce que 7 ans après, vous arrivez à mesurer l'impact de vos activités sur le terrain?
Nous avons reçu beaucoup de témoignages. Si vous partez sur notre site web www.aider.net, vous allez voir qu'il y a des mamans, il y a des témoignages qui viennent par-ci, par-là, qui disent « Depuis que l'eau a été mise en place par l'AIDER ici, nous avons il a diminué nos fréquentations au centre de santé pour le problème de diarrhée et d'autres choses. Et il y a des mamans qui nous ont témoigné, franchement, qu'il y avait eu de viol de leur fille parce qu'ils devraient se réveiller vers 3h du matin, 2h du matin, aller chercher de l'eau. Et avec des milliers de l'insécurité, vous voyez combien de fois que les choses ne peuvent pas être bien. Ils ont témoigné qu'il y a même réduction des niveaux de viols, violences sexuelles dans leur village. Et il y a aussi l'augmentation des enfants à l'école. Parce qu'on a arrivé dans un village qu'on appelle Nregi, vers Chomia. Il y a des enfants qui ont dit, nous n'allons pas partir à l'école parce qu'il n'y a pas l'eau. Et lorsqu'on a mis les points d'eau, on a constaté qu'il y a l'engouement et au niveau de l'école, et dans plusieurs villages de l'Ituri.
Ils ne peuvent pas partir à l'école pourquoi ?
Il n'y a pas d'eau, ils ne peuvent pas prendre bain. Et à l'école, s'ils viennent sales, les enseignants leur disent, tu es sale, rentre à la maison. Ou les autres enfants qui sont propres disent que tu es en train de donner de mauvaises odeurs, tu ne peux pas rester auprès de moi.
L'insécurité qui affecte l'Ituri, est-ce que ça n'handicape pas, est-ce que ça ne freine pas vos activités?
Nous voudrions à tout prix avoir une cohésion sociale au sein de nos équipes. Vous allez voir dans nos équipes, il y a des jeunes Hema, des jeunes Lindu, des jeunes Bira avec lesquels nous travaillons, des jeunes Ngiti. Ce sont les ouvriers que nous utilisons pour arriver dans tel ou tel autre village. Pour ce qui est des sabotages, il y a de ces communautés-là qui nous informent que malgré qu'il y avait la milice dans tel ou tel autre village, la seule chose que nous avons pu garder, c'est le puits d'eau. Donc on a reçu ce témoignage de la part d'autres communautés, l'occurrence Kunda ici et les autres. Le puits d'eau sont toujours là et ça continue à servir les communautés.
Quelles sont vos perspectives d'avenir dans le secteur dans lequel vous œuvrez dans l'Ituri?
Nous aimerions, dans la mesure du possible, commencer à réfléchir sur les water kiosques. Water kiosques, c'est une stratégie qui nous aide à mettre en place un seul puits d'eau avec un grand tac pour desservir les avenues. Et aussi, nous avons été au Congo central et dans quelques provinces du pays et nous avons vu que le besoin n'est pas seulement en Ituri. Dieu voulant, nous allons lancer quelques activités des gens dans la ville de Kinshasa pour que nous puissions étendre aussi nos activités vers l'ouest.
Merci Benjamin Liringa.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur général de l'ONG Accès à l'eau potable et au développement en RDC. Benjamin Liringa était interviewé à Bounia par Jean-Claude Lokidile. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga et Alain Rungmouchige qui m'ont accompagné.